Voilà, bonsoir à vous qui nous écoutez sur Internet, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ce soir au château, en petit comité restreint, et on a le grand privilège d'avoir avec nous le docteur Pierre Gilbert. Bravo! Alors je pensais que c'était bien que vous puissiez l'écouter, surtout vous qui n'avez pas pu venir à la conférence qui aura lieu demain. Alors, on va lui laisser toute la place tout de suite. Je vais demander, Franck, est-ce que tu veux faire la prière pour nous? Vas-y.
Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole qui va être annoncée. Merci de bénir ton serviteur et permets qu'elle puisse mûrir dans nos cœurs afin que nous puissions la retransmettre dans nos vies de tous les jours, Seigneur. Sois vraiment glorifié en ton nom. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Voilà, Pierre, à toi, tu as tout posé. Donc,
tu ne t'interroges pas, Yann.
Pardon ?
Tu ne t'interroges pas. Tu ne t'interroges pas.
Non, non, je ne t'interroge pas. Tu dis ce que tu
veux. Ah, bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est sûrement un plaisir pour moi d'être dans cette petite communauté. Ça fait quand même 3 fois que j'y viens, hein. Vous n'êtes pas fatigué, j'espère, de m'y recevoir. Alors, sur la demande de Michel, qui m'a demandé de parler un peu de moi pour, comme il le dit, qu'on me connaisse davantage. Vous savez, j'ai parlé de beaucoup de choses dans ma vie. J'ai donné des conférences sur différents sujets, mais parler de moi, je ne connais pas. Ça m'est difficile, parce que la vie, elle se déroule à chaque jour et on regarde toujours au lendemain et ce qu'on a appris ce jour-là, et ensuite on le résume, on veut bien le donner, mais nous, là-dedans, on ne se voit pas, c'est comme nos yeux. Je vous vois, mais je ne me vois pas, d'accord? C'est pour ça qu'il est facile de trouver dans l'œil du voisin la poutre alors ou la paille alors qu'on ne voit pas la poutre qui est dans la nôtre, hein? Bon, alors, voilà. Moi, je suis un homme très simple. Je suis un homme qui est sensible, comme beaucoup d'entre vous, parce que si j'ai accepté le Seigneur, il a fallu que j'aie les récepteurs nécessaires pour comprendre. On appelle ça la sensibilité qui nous est donnée par l'Esprit Saint, bien sûr. Je suis né dans une famille simple. On était six enfants. Mon père était une sorte d'ingénieur dans la mécanique. Et puis, je suis né en 1939. Alors, je viens de révéler mon âge. Et voilà, pour vous dire comment j'ai été élevé dans la campagne. Mon père demeurait à la ville, mais j'ai été élevé à la campagne, donc j'aimais courir les animaux dans le bois, aller à la chasse, à la pêche. J'étais pas loin de la ville, mais je n'irai pas à la ville avant que j'aille aux grandes études pour aller, parce que les universités étaient à Trois-Rivières, à la ville, alors on restait à la campagne. Je vais essayer de toucher des points caractéristiques de ce que je fais aujourd'hui pour que vous compreniez le cheminement. Vous avez tous votre cheminement. Le mien n'est pas mieux que le vôtre. J'espère qu'il n'est pas pire. Toutefois, je pense que ça peut être intéressant pour moi-même que de y retourner en arrière. Je vais apprendre à me connaître en même temps. Alors, j'ai fait mes études au début à la campagne, ce qui était très intéressant. Et ensuite, en vieillissant, j'aimais voir les journaux. Et puis, j'allais toujours la dernière page en arrière, parce qu'il y avait des bandes animées sur les journaux. Vous avez connu ça, les bandes animées. Et ça m'intéressait de voir Tarzan. Vous avez déjà vu l'histoire de Tarzan, Henri et Popeye, ainsi de suite. Mais ça m'intéressait plus ou moins. Il y en a une qui m'intéressait beaucoup, c'était Mandrake. Est-ce que vous avez connu Mandrake? Mandrake? D'accord. Alors, c'était Mandrake le magicien. Et même la magie qui était présentée dans cette bande dessinée, ce n'était pas de la prestidigitation. C'était vraiment de la magie telle qu'aujourd'hui, on le rejette. Parce que Mandrake, il avait fait ses études au Népal avec sa femme Narda. Il avait un compagnon qui s'appelait Lothar. Et Lothar, il y avait une bande on pourrait l'imaginer dans la jungle, il était très fort. Mais Mandrake, lui, il n'utilisait pas la force physique, il utilisait la magie. Il était espion pour le gouvernement de temps en temps, pour d'autres choses. Et puis Mandrake, quand ça n'allait pas autour de lui, il mettait ses mains comme ça, puis il hypnotisait les jeunes qui étaient, ou les gens qui étaient à côté de lui. Et moi, j'étais intrigué par ces choses. Et puis, quand ça n'allait pas encore, bien, il sortait de son corps, puis il passait, il allait voir les choses, puis il revenait. Alors, j'écoutais, j'avais 7, 8, 9 et 10 ans, j'écoutais ces choses. Je lisais. Et j'étais très intrigué. Et alors là, ça m'a amené à d'autres choses, à faire des recherches un peu plus tard en parapsychologie, en philosophie de l'Orient, si vous voulez, la philosophie orientale. Donc, j'ai travaillé un peu, quelques années, avec le professeur de philosophie, qui était un Russe de l'Université de Trois-Rivières, dans des recherches en parapsychologie. On a fait des recherches pendant 2 ans, et on est sorti de là, on en savait moins qu'au début. Et puis, c'était du temps perdu. Mais moi, j'allais dans des... c'était l'époque où le nouvel âge commençait à prendre forme. Et puis, j'ai enseigné le yoga, j'ai enseigné, enfin, tout ce qui regarde les sciences de l'esprit, quoique j'étais physique également. Je me suis inscrit, je faisais de la culture physique, j'aimais courir, je sautais, je marchais sur les mains, enfin, tout ce genre de choses. Il ne faut pas que vous pensiez que je suis un pur intellectuel. Je suis un anti-pur intellectualisme. Et ensuite, je me suis lancé dans les études scientifiques. J'ai fait un cours pour entrer à l'université en sciences. Et puis, finalement, je gagnais mes études en enseignant le jiu-jitsu et l'hiver. Et puis, l'été, j'enseignais la natation. Alors que vous voyez, je n'étais pas juste la pensée, j'étais très physique. Et puis, j'étais aux États-Unis à l'époque. Ma famille est américaine. La famille du côté de ma mère est entièrement américaine. Seulement que ma mère qui est demeurée au Québec. Alors, l'été, on avait la famille qui venait, on parlait anglais. Et quand j'y allais l'été suivant, ben, on parlait anglais un peu également. Alors, éventuellement, je me suis mis à faire des... J'ai fait mes études aux États-Unis complètement. À l'âge de 18 ans, je quittais après les cours en scientifique à l'Académie de la Salle de Trois-Rivières. Et au lieu d'aller en psychologie à l'Université Laval, comme je m'étais inscrit, j'ai abandonné et je suis allé pour devenir un chiropraticien. Vous savez que je suis un chiropraticien. À l'Université Palmer, aux États-Unis, c'était des cours de 4 ans. Aujourd'hui, c'est 6 ans pour devenir un chiropraticien. Et puis j'ai pris la mentalité américaine. Je suis devenu un demi-américain, si vous voulez. Alors, j'ai continué. J'ai toujours travaillé aux États-Unis par la suite pour donner des cours en tant qu'intervenant ou consultant pour une firme qui était là. Alors, après mes études mes études pour devenir un docteur en chiropratique, eh bien, j'ai entré en pratique, j'ai été marié, j'ai eu 4 enfants. J'en ai une qui demeure en Europe, qui demeure en France ici. Elle a 4 enfants, elle aussi. J'ai soupé avec eux juste la semaine dernière. Et puis, j'en ai 2 qui sont joailliers. Puis les 2 autres, une qui est assistante qui est infirmière spécialisée en anesthésie, et l'autre, bien, qui est en sa 2e année pour devenir infirmière. Alors, ce sont les enfants de ma fille, qui est venue ici en France il y a plusieurs années, à l'âge de 18 ans, et elle m'a joint tout, elle n'est jamais revenue. Parce qu'elle a rencontré quelqu'un, et ils se sont mariés, ils sont chrétiens comme vous et moi. Et pour le moment, ils sont au Québec actuellement, justement, dans les forêts québécoises. Ça a toujours été le désir de mon gendre d'être au Québec lorsque les feuilles tombent à l'automne. Je vous assure que c'est très beau. Parce que le pays où je demeurais, à Trois-Rivières, c'est un pays d'érable, de plaine, et de bois dur, qu'on appelle. Et c'est des couleurs qui sont... Les gens viennent des États-Unis, de partout, en autobus, pour venir voir les feuilles de cette région. Alors, c'est toute beauté. Dans la région où je demeure actuellement, parce que je vis au lac Saint-Jean maintenant, je ne pensais jamais vivre au lac Saint-Jean, c'était très loin. Et maintenant, je vis là depuis bientôt 40 ans. La région est moins belle à l'automne parce qu'il y a moins d'érables. On s'en va dans une région conifère, et plutôt que feuillue. Et là, il y a du tremble encore, et puis il y a du bouleau. Et ça fait des belles feuilles jaunes, mais pas plus que jaunes. Alors que dans la région où j'étais, c'est le rouge de tout, avec toutes ses vertus et toutes ses couleurs. Et c'est merveilleux, mais ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Moi, je suis un homme de conviction. Et je suis un homme d'action. et ce n'est pas du crédit que je me donne, j'y peux rien, je suis fait comme ça. Dès que je suis arrivé en pratique, en 1900, je suis arrivé en pratique, mais en 1900, tombé par sur le dos, les jeunes, là, je suis arrivé en pratique, mais en 1962, la majorité ici n'était pas là. Toi, y étais-tu en 62? Bon. Alors, ça vous donne une idée que j'ai fait du chemin. Je suis encore là. Alors, l'année après que je suis arrivé en pratique, quand j'ai vu comment l'application de la profession chiropratique fonctionne, quand j'ai vu comment des malades retrouvent facilement la santé, quand c'est indiqué, je ne suis pas le gars à dire que ma profession, moi, c'est la seule et unique qui fonctionne, et puis c'est une panacée, elle guérit tout le monde et en toutes circonstances. C'est faux. Chaque profession a son champ d'action. Et dans mon champ d'action, ce n'était pas connu. Alors, dès la deuxième année, j'avais dit à mon épouse, dès que je gagnerai 250 $ par semaine, eh bien, j'en donne la moitié pour me louer une émission à la radio et pour faire connaître ce que je faisais. Alors, la deuxième année, je faisais déjà 250 $ la semaine, mais à cette époque-là, savez-vous comment ça coûtait, venir me voir? Ça coûtait 3 $ la visite. Ça a changé un peu, n'est-ce pas? Ça coûte ça pour le parking aujourd'hui, pour venir se faire traiter. Alors j'ai été connu comme ça dans tout le Québec. J'ai donné des émissions à la radio, ensuite à la télévision. J'ai écrit sur des journaux pendant des années de temps. Alors, c'est parce que je croyais dans ce que je faisais et ça a marché. Dans peu de temps, j'ai développé une très grosse pratique, trop grosse pour la capacité d'un seul homme. Un jour, j'ai vécu des choses que vous n'aimerez pas, mais je me suis divorcé. Après un certain nombre d'années, ce n'était pas dans mes plans, mais c'était dans les plans de celle qui vivait avec moi. Et puis c'est pour ça que mes enfants ont disparu par la suite. Ils ne voulaient pas vivre avec leur maman qui avait un petit problème quelque part. Je ne vais pas en parler ici. Ça n'a pas aucune importance, aucune incidence. C'est des choses dont la page est tournée depuis longtemps, mais ça fait partie de ce qui m'a mobilisé pour aller vivre loin ailleurs. Elle me rendait la vie trop difficile. Aujourd'hui, tous mes enfants sont avec moi et j'en suis... J'en suis très heureux. Il faut attendre le bout, hein? Alors, cette conviction-là m'a amené à aller à la radio, à la télévision, et finalement, j'ai rencontré un bonhomme qui avait des ambitions comme les miennes, et puis au Lac-Saint-Jean, on a fait un centre de chiropratique qui s'est établi à la grandeur de la région et de la province, qui s'appelait les Centres chiropratiques québécois. Alors, on avait plusieurs cliniques à la fois. J'avais mandé 22 employés. Et puis, c'était la grosse chose. À la clinique où j'étais, ils se donnaient environ entre 500 à 600 traitements par semaine. Et c'est moi qui les donnais tous. Hein? Et puis, on avait des cliniques à travers la région. Il y avait des docteurs qui étaient là. Et puis, tous mes docteurs ne tombaient pas sur le dos. Ils étaient tous mariés avec des Américaines, parce que la chiropratique à cette époque-là n'était qu'aux États-Unis. Et ils vivaient tous en dehors de la région, dans des campagnes, ainsi de suite, des petites villes, et les femmes venaient de la région de Chicago, et puis voulaient toutes se retourner chez elles. Alors, les fins de semaine, je travaillais comme un fou la semaine, puis les fins de semaine, je réglais les problèmes de couple. Oh là là, c'était quelque chose. Un jour, m'ennuyant de mes enfants, je n'en pouvais plus et j'ai vendu le tout pour des peanuts, comme on dit, pour très peu de choses. Et là, j'ai pris une année sabbatique et ensuite, j'ai lu des choses sur le jeûne avec le docteur Herbert Shelton. J'en ai déjà parlé. Et là, avec un autre confrère qui avait des vues semblables aux miennes, je suis allé dans les Bahamas avec lui. On a acheté un hôtel qui était libre depuis quelques années, un bel hôtel sur le bout de l'île Eleuthéra, dans lequel tu vois la mer en face, à droite, puis la mer à gauche également, en face d'une petite île qui s'appelle Spanish Well, de toute beauté, sur laquelle ils vivent 1000 Blancs seulement. Ils ne laissent pas entrer aucun noir. C'est une, C'est une discrimination comme ça qu'ils ont fait, je ne sais pas pourquoi. Et ils sont tous un peu malades. C'est parce qu'ils se sont mariés entre eux, consanguins, depuis 1700 quelque chose. C'est un bateau qui a coulé tout près. Ils sont réfugiés sur l'île, puis ils sont restés là. C'est extraordinaire quand même. Ils sont tous blonds, les yeux bleus, et puis ils sont tous un peu malades. Puis ils souffrent tous de haute pression sanguine. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que l'eau qu'ils puisent, l'île de Spanishwell est trop petite. Et puis, l'eau de la mer, il pénètre par en dessous. Et puis, ils ont cru avoir une source qui durerait. Mais finalement, ils ont été obligés de creuser. Et l'eau est saline. Mais comme ils se sont habitués à l'eau salée, ils ne savaient pas que l'eau était salée. Quand on est arrivé sur l'île Littéran, qui était à peu près à 10 minutes en bateau, il y a une épicerie, on allait là, et c'est nous, mon confrère et moi, à ce moment-là, qui avons découvert que l'eau était saline. Et on leur a dit, puis on dit, notre eau est bonne. Et puis, alors, à ce moment-là, juste le fait de changer, de prendre l'eau sur l'autre île, qui était de l'eau douce, sans sel, la pression sanguine a baissé, les reins, l'accumulation du sel sur les reins. Alors, pour dire des petites choses comme ça, c'est assez spécial, parce que ça m'importe, parce que ça montre comment on se développe dans un milieu, et comme la grenouille dans l'eau tiède, qui devient chaude, bouillante, jusqu'à la tuer, on ne s'en rend pas compte. Alors, eux s'en étaient pas rendus compte de l'eau qui était saline. Alors, nos milieux sont semblables. Des fois, c'est pas très correct, les milieux dans lesquels on vit, et puis on dit rien, on fait rien, parce qu'on s'y est habitué. Le cerveau s'habitue à toute chose. Alors, un peu plus tard, je deviendrai acupuncteur. J'irai prendre l'acupuncture aux États-Unis avec le docteur Nagayama. Je m'étais inscrit, on était à peu près une cinquantaine de chiropraticiens qui allions au Japon pour aller apprendre l'acupuncture. Et puis finalement, comme ça s'est connu publiquement, on s'est ramassé avec environ 2000 chiropraticiens qui voulaient qu'ils viennent. Ils venaient pour deux fins de semaine, ils sont venus pour deux ans. Alors, j'ai appris l'acupuncture. J'ai appris pas mal de choses sur l'acupuncture. Et puis, j'ai découvert que l'acupuncture, elle a sa place comme la chiropratique, comme la médecine, comme la naturopathie. Je deviendrai un peu plus tard naturopathe également. En 1980, j'ai découvert une société aux États-Unis qui s'appelait la Nutrionic King James Academy. Et puis, ça consistait à prendre 5 ou 6 tests sur le corps, et voir le pH du corps. Eux, leur philosophie, c'était « Si ton pH est normal, tu es en santé. » Dès que tu dévies de la santé, le pH devient normal. Comme dans une piscine, si le pH devient acide, il y a des champignons qui se développent. Et s'il devient alcalin, ce sont des algues, d'accord, qui se développent. Alors, j'ai travaillé avec ça pendant un bon nombre d'années. Et puis, on a eu des résultats, des gens qui ont été guéris du cancer, des gens qui ont été guéris de toutes sortes de maladies dites dégénératives. C'est là que j'ai appris que la maladie dégénérative se développe en milieu acide. Alors, il faut retrouver le pH et l'acidité. Et quand l'acidité n'est pas là, le corps est équilibré. En tous les cas, ça ne répond pas là non plus à tous les problèmes de physiologie, mais je suis allé dans ces choses-là et aujourd'hui, j'ai cette connaissance qui m'aide moi-même là-dessus. Et dans les Bahamas, j'ai fait cette clinique de jeûne et on prenait des gens qui avaient des artères bloquées, qui avaient été opérés 2 fois et que les médecins ne voulaient plus opérer et on les mettait au jeûne pendant 28 à 35 jours à l'eau seulement, de l'eau pas salée là, cette fois. Et puis, au bout de 25 à 30 jours, le corps se nettoie complètement, le corps se guérit entièrement. Encore une fois, on appelle ça de l'autolyse, mais il y a à l'intérieur de nous tout ce qu'il faut pour se guérir lorsqu'on est malade. C'est une flèche de plus dans le carquois de ceux qui veulent être un thérapeute de santé. Parce qu'autrement, vous dites ça en passant, j'ai découvert que les gens qui apprennent la nutrition, ils voient tous les problèmes de santé à travers l'assiette. Et les acupuncteurs, ils voient tous les problèmes de la santé en dessous de leurs aiguilles. Et les chiropraticiens voient tous les problèmes de santé avec un déplacement vertébral. Puis les médecins le voient tous avec une aspirine et puis le couteau. Mais c'est un fait que je vous dis là. Je l'ai vécu et je sais comment que ça fonctionne. Alors, démêler tout ça, faut, je dis qu'il faut savoir toutes ces choses-là. En 1968, j'avais un ami à moi qui était le fondateur de l'université à Trois-Rivières. Il y a longtemps que je trouvais que ça coûtait très cher aller faire nos études aux États-Unis et puis que le Québec se privait d'étudiants brillants qui voulaient faire des études en chiropratique, mais ils ne pouvaient pas faute de moyens financiers. Alors, je suis allé voir cet homme qui était, que j'avais connu dans le scoutisme. Je dois vous dire que j'avais fait du scoutisme à l'âge de... On entrait chez les scouts chez nous à l'âge de 12 ans. Moi, j'ai entré à l'âge de 10 ans. Je leur avais dit que j'avais 12 ans. Et puis, parce que je voulais rentrer chez les scouts. Et j'ai resté là plusieurs années parce que j'aimais la formation qu'ils donnaient. Et puis, c'était... j'ai appris à connaître un peu Jésus chez les scouts à cause des aumôniers qui étaient là, qui nous parlaient de Jésus. Là, c'est resté en moi, cette histoire, mais ça restera latent un petit moment encore. Et puis, pour revenir à l'université, ben, je suis allé le voir et je lui ai parlé de pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas l'université à Trois-Rivières ici. Il me dit, Pierre, voilà, tu arrives au bon moment, on se cherche un projet. Et ce serait bon, si tu le veux, mets-nous ça sur papier, qu'est-ce qu'il faut, ainsi de suite. Alors, en 1968, j'ai pris tout l'été avec un grand carton, j'ai fait tous les cours, les heures que ça demande, ainsi de suite. Au mois de septembre, je me présente devant lui, et puis il regarde ça. Et là, il fait venir le comité une semaine ou deux après. Et puis, il y a la chiropratique à Trois-Rivières depuis tout ce temps. Les étudiants ne vont plus aux États-Unis pour apprendre la chiropratique. C'est assez extraordinaire. Je suis bien content de ça. Alors, j'ai fait ça parce que je suis un homme de conviction. Puis, il faut qu'on soit de conviction. Un chrétien, c'est un homme de conviction. On est tous des appelés à la conviction. Vous êtes tous des séparatistes. Vous vous êtes séparés du milieu orthodoxe. Vous vous êtes séparés du milieu social général. Vous êtes tous des hommes de conviction et des séparatistes. Il faut se séparer du monde, non? Mais le Seigneur m'a appris à faire des choses que je n'aurais jamais pensé à partir de ces expériences de vie. C'est pour ça que je vous les relate. C'est pas plus malin que ça. J'ai accepté Jésus-Christ, moi, en regardant un homme qui s'appelait David Wilkerson. Vous devez connaître David Wilkerson. Alors, quand j'ai quitté la clinique où j'étais, j'ai commencé à donner des cours aux États-Unis, aux chiropraticiens qui ne réussissaient pas, pour toutes sortes de raisons. Des raisons, des problèmes de personnalité surtout, il fait qu'ils ne réussissent pas. C'est pas tout de savoir faire une chose, il faut savoir bien la présenter. Il y a tout un comportement qui va avec ça. Alors, moi, je donnais des cours de personnalité là-dessus, et je donnais des cours de nutrition, et mon travail consistait, un chiropraticien ne réussissait pas vraiment, et je passais 2-3 jours avec lui, et je parlais de choses et d'autres. Et j'essayais de comprendre ce qui n'allait pas chez ce bonhomme-là. Et c'était une sorte d'analyse... psychosociale, psychologique, si vous voulez. J'avais étudié beaucoup la psychologie. J'ai toujours été attiré par les sciences du psy. Mais je ne suis pas un psy pour ça. J'ai un psychique, par contre, comme vous. Et puis, alors, c'est moi qui étais au bout de la ligne quand ça ne marchait pas. Alors, je sautais dans l'avion, puis c'est ça qui m'a permis d'aller aux États-Unis un peu partout. Je sautais dans l'avion et j'allais passer 1, 2, 3 jours dans les grosses cliniques. Et là, je faisais un rapport, puis bon, c'était ça qui était d'être consultant. Et puis, on faisait un congrès par mois. Et c'est là qu'on en parlait. Je suis allé à Las Vegas, à Reno, parce qu'on les faisait là pour que les docteurs viennent. Il fallait qu'ils assistent, parce que nous, on se faisait payer par eux uniquement si on était capable d'augmenter leur revenu. Alors, il fallait qu'ils augmentent leur revenu. Donc, le revenu augmentait, non pas en chargeant plus aux patients, mais en développant la capacité à bousculer le patient ou lui faire comprendre que c'est son devoir de référer. Si, par exemple, je traite un patient qui a mal à la tête depuis 20 ans, et puis qu'il a tout vu et encore mal à la tête, et je lui enlève son mal de tête, pourquoi tu ne dis pas à ta voisine qui a mal à la tête aussi, hein, des choses comme celle-là? Alors, c'était passablement honnête, jusqu'au jour où je me rends compte qu'on nous demande des procédures qui, à mon sens, à moi, sortaient de l'éthique. La vie professionnelle sont comme ça aujourd'hui, c'est pas toujours facile. J'ai de la difficulté avec les professionnels, moi. Je suis allé chez des gens qui s'occupent du juridique et ça m'a coûté les yeux de ma tête, puis on n'a rien fait. En téléphone, 125 000 $. Alors, vous savez de quoi je parle. Je ne serais pas capable aujourd'hui d'aller dans certaines professions parce que je suis chrétien. C'est ma conviction à moi, c'est pas obligé de la partager. Mais c'est parce que j'ai vécu des choses. Alors, je vais voir ce film qui s'appelait La route vers l'Armageddon. Et là, ça y est, c'était. J'avais vu cette annonce sur le journal local. Et puis, comme je demeurais dans un chalet l'été, j'étais pas encore établi au lac Saint-Jean. L'hiver s'en venait, l'automne, c'est-à-dire qu'il fallait que je me trouve une maison où je déménage ailleurs. Mais je demeurais au lac Saint-Jean avec mon épouse. Avec ma nouvelle épouse, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Je ne suis pas un divorceux, comme vous le voyez. Et puis, j'ai eu un enfant avec cette femme qui est la mienne. Et puis, elle s'appelle Sarah. Elle est professeure de théâtre et d'art. Elle est mariée avec un homme qui est une maîtrise en histoire. Alors, ça m'aide beaucoup parce que quand je veux faire des choses, je veux voir, vérifier avec lui. Ils sont chrétiens tous les deux. Et puis, il connaît beaucoup l'histoire de l'Église à travers les études universitaires. Il ne connaissait pas dans le même angle que chrétien avant qu'il devienne chrétien. Mais ce sont des choses qui m'ont aidé parce que lorsque je suis allé voir ce film, étant donné que je le vois sur le journal, et puis je vous conte une petite anecdote en même temps parce que ça m'est toujours resté à l'esprit. Et alors, il y avait un petit rectangle sur le journal, « La route vers l'Armageddon », présenté par l'Église Pentecôte d'Alma, l'Église de Christ d'Alma. Et les Québécois, c'est des gens qui ont des jurons, qui sacrent beaucoup. Vous connaissez ce que ça veut dire? Et puis, ils le font, ont été élevés comme ça, ils le font tous. Alors moi, j'ai trouvé ça bien dur parce que les Québécois sacrent, puis ils utilisent le mot CHIRST pour autre chose aussi. Et puis, je vois cette annonce et j'appelle le pasteur qui était là. Il me dit, si c'est à 7h30, vous êtes bienvenu. Alors j'y vais à 7h30, j'arrive à l'église. Il y avait 4 personnes qui attendaient à l'extérieur. Et puis, alors je me suis dit, l'église était là. C'est une petite église qui est là depuis toujours. Et puis, elle est... classifiée faisant partie du patrimoine. Alors, personne ne peut y toucher. D'ailleurs, elle a été vendue, et puis c'est un couple qui vit dedans. Ils ont refait l'intérieur, et puis à l'extérieur, c'est pareil comme c'était, parce que le patrimoine ne permet pas qu'il change. Donc, je vais voir ce film, et puis le pasteur n'était pas là avant 8 heures. Alors, moi, j'étais prêt à m'en aller. On était quatre, il y avait quatre autres personnes, puis moi. Et puis là, je pars. J'étais à 8h moins 10, c'était pas arrivé. Alors je la rappelle, et c'est son épouse qui répond. Elle me dit, oh, mais c'est à 8h. Mais je dis, madame, dans le journal, c'est marqué 7h30. Oui, mais elle dit, ça sert à rien d'être là à 7h30, c'est à 8h. Oh. Alors, quand je suis revenu, il en restait un qu'un, hein, les autres étaient partis. Donc, je vous dis ça parce que j'ai trouvé ça tellement incroyable. C'est un jeune pasteur, c'était ses premières armes. Alors, il a compris pas mal depuis ce temps-là, que même si c'était à 8 heures, c'était marqué 7h30, soit là, mon grand. Donc, on a des comportements comme ça parfois qui sont imprévisibles. Je suis allé les 3 soirs consécutifs, ça a été présenté. Et le premier soir, j'ai trouvé ça bon. Le deuxième soir, j'ai dit, faut absolument que mon épouse vienne avec moi. Et le troisième soir, j'y retourne encore. Puis là, j'avais pris des notes, puis j'avais des questions à demander au pasteur. Et il m'a répondu chaque question après, avec la Bible. Alors ça m'a renversé qu'il réponde. Finalement, quelqu'un me répond avec quelque chose qui est statué là, c'est quelque chose qui est absolu. Et puis, alors il fait un appel au salut, puis on était 3, lui, on était 4, lui, son bras droit, qui était là avec moi, et puis 2 autres personnes. Et moi, j'étais en arrière, et puis je décide j'accepte le Seigneur, dans les termes qu'il me l'a dit. Et c'est là que j'ai vécu une expérience. Seigneur permet que je garde mes émotions. Et c'est là que j'ai vécu une expérience unique à moi, comme vous avez toutes vécu des expériences uniques à vous. c'est l'expérience que j'ai vécue, c'est une chaleur qui m'a montée, est arrivée dans mes pieds, que montée dans mes jambes, et je la sentais venir, puis je me demandais ce que c'était. Elle s'est arrêtée dans ma poitrine, et là, j'ai pleuré 20 minutes de temps. Comme un enfant qui pleure, tu lui dis « Arrête, mon gars, arrête, mon gars. » Non, puis il pleure pareil. Ça a duré 20 minutes, apparemment, ce qu'ils m'ont dit. Et puis, quand j'ai eu vécu cette expérience, toute la sémantique de l'occultisme que j'avais lu et que je croyais plus ou moins, merci Seigneur, il m'a fait passer à travers ces sociétés secrètes, parce que je ne vous ai pas dit que j'étais membre des Rose-Croix. Alors, il y avait en moi toute cette nomenclature, cette philosophie. Et croyez-moi ou pas, c'est un miracle. Quand j'ai accepté le Seigneur, non seulement je n'ai plus eu envie d'enseigner ces choses, mais j'ai perdu la sémantique, les mots qui étaient reliés à ces choses, je l'ai perdu. Ma mémoire a été refaite. C'est extraordinaire, j'en revenais pas, mais j'en reviens pas encore aujourd'hui. Alors, c'est des choses qui sont exceptionnelles à chacun de nous. Vous avez toutes les vôtres également. Et là, quand je suis devenu chrétien, j'ai été assez assidu aux enseignements bibliques. Je ne me suis pas contenté de deux soirs par semaine. J'ai étudié avec en vitesse engrangée, en vitesse accélérée. Et ensuite, deux ans après, mais j'enseignais les cellules. Et à la clinique où j'étais, à cette époque-là, dans les années 80, on en parlait à des gens, puis ils venaient comme des mouches du miel. Alors, pendant 3 ou 4 ans, j'ai eu des cellules. J'avais une salle d'attente à ma clinique qui pouvait contenir 35 personnes pour donner des conférences. Moi, je ne permettais pas à un patient de venir sur mes soins sans qu'il assiste à une conférence. La conférence me permettait non seulement de leur expliquer comment fonctionne le corps, mais de leur donner leur responsabilité s'ils voulaient que je les aide. On se comprend? Et puis, j'ai jamais eu moins de 14 personnes pour des cellules d'enseignement de base. Et puis aujourd'hui, on est capable d'en réunir 2 à tous les 6 mois. C'est heureux, hein? C'est pas... Dans mon milieu, en tous les cas, c'est plus facile. Les gens sont complètement, devenus sursaturés de religion de toutes les sortes. C'est tout un phénomène. Alors, je me suis mis à étudier toutes les religions, toutes les philosophies, incluant la philosophie dans laquelle j'étais embarqué. Et ça m'a drôlement aidé à choisir d'une façon, avec beaucoup de discrimination et de sélection, l'Évangile de Jésus-Christ. Autre chose également, j'étais dès le départ attiré par l'eschatologie. Pourquoi est-ce que j'étais attiré par l'eschatologie? Parce que, tout jeune, vers l'âge de, 7 ou 8 ans, j'ai eu une vision de mon salut. Mais je ne le saurai que plus tard que c'était une vision de mon salut. J'ai rencontré dans un appartement qui était chez mon voisin, j'ai rencontré Satan. Et il venait habillé en Satan, avec les images que j'avais de lui. Et puis là, deux démons sont venus pour me saisir. Et j'étais tout jeune, et je me souviens avoir crié. Et ayant crié, mon corps s'est élevé. Il est allé l'autre côté dans un appartement qui était là. Et là, il y avait 3 personnages. C'était Jésus, le Père, puis je suppose l'Esprit Saint, et puis qui m'ont gardé dans les mains. Et là, mon rêve s'est arrêté là. Et je m'en suis toujours souvenu. Et puis, par la suite, vers l'âge de 17 ans, il y avait en arrière de chez moi une clairière avec une grosse roche comme celle-là. Et puis le soir, j'allais là, à la lune, quand la lune était là, je m'assoyais sur la lune. Pardon. Tu me pardonnes? Très bien. Non, je m'assoyais sur cette pierre et puis déjà, je priais. Je priais seul, des prières que je ne faisais pas par ma famille. Mes parents étaient catholiques, puis on disait chapelet le soir. Et puis... ça ne me disait pas grand-chose, le chapelet. Je le faisais, comme tous les jeunes le faisaient également. Et puis, cette même roche est restée là pendant des années. Et puis, plus tard, quand je reviendrai en pratique, je me ferai bâtir une maison. Et sur le terrain que j'avais acheté, par une carte à côté, était la roche où j'allais prier quand j'étais jeune. C'est fort, hein? C'est vraiment, vraiment extraordinaire ce que le Seigneur fait des fois. Et puis là, quand j'étais jeune, j'ouvrais les journaux. Et je regardais si on parlait de la fin du monde. et je découpais tout ce qui était de la fin du monde. Ne demandez-moi pas pourquoi. Lui le savait. Alors, dès que je suis devenu chrétien, je me suis intéressé à faire venir des livres sur l'eschatologie. Et là, j'ai commencé l'eschatologie et je suis encore dedans. Avec ce qui s'en vient, je pense que j'achève dans ce que j'appelle, moi, les enseignements derniers. Vous le verrez demain. Vous n'avez qu'à regarder un petit peu ailleurs. Quand je dis j'achève, je ne sais pas si ce sera demain, après-demain, dans 5 ans. Ça devrait être un peu avant même, je l'espère. Comme on disait cet après-midi, on l'espère tous que ce sera avant. Et ensuite de ça, un peu plus tard, lorsque, après avoir laissé les sociétés secrètes, je me rendrai compte, en faisant venir des livres sur les grands hommes, qu'ils avaient tous un symbole sur eux, et ce symbole, c'était le symbole franc-maçonnique. Et là, je me demandais pourquoi qu'ils avaient ce symbole, ce triangle, et puis le compas. Alors, j'ai fouillé les sociétés secrètes et je me suis intéressé beaucoup aux sociétés secrètes pendant des années de temps, après avoir laissé les Rose-Croix, et c'est pour ça que je les ai dénoncées, parce que je suis toujours un homme de conviction encore. Je ne change pas. Et faut, pour les placer sur la place publique, comme je l'ai fait avec Ordo Abcao, dans des milieux, je voudrais que vous compreniez que moi, je me foutais ce qu'elle allait arriver. C'est une conviction profonde en moi. Parfois, j'avais des craintes en moi. En parlant de craintes, moi, j'ai toujours eu une crainte jusqu'à l'âge que mon père décède. Savez-vous que j'avais des peurs des morts quand j'étais jeune? J'avais une peur maladive des morts. C'est incroyable. Un jour, je vais chez un parent, dans un endroit pas tellement loin de chez nous, qui s'était noyé dans 6 pouces d'eau. Il a fait une crise du cœur, il se tenait un peu, mais il s'est noyé avec l'eau qui était là. Et puis, quand je suis retourné chez moi, hein, dans un garde-robe, on avait une grande maison, puis on rentrait dans le garde-robe pour le déposer. J'ai entendu un petit bruit, je suis sorti en courant, je suis allé voir, hein, je suis allé en bas, j'avais peur des morts. Alors, cette peur des morts, elle n'est partie que lorsque mon père est décédé, que je l'ai eu touché. Je veux vous dire ça parce que c'est bizarre dans ma vie, je ne comprends pas comment j'avais peur des morts, mais j'avais peur des morts, d'une façon morbide. Et ensuite, pourquoi est-ce que j'ai fait le système bancaire que vous voyez sur plein feu? C'est que je me suis fait frauder. Après avoir travaillé pendant 35 ans, jour et nuit, m'étant impliqué comme je l'étais dans le domaine de la santé, j'ai pris un comptable qui m'a entraîné dans des placements. Et puis, finalement, c'était un truc de lui avec un notaire à l'époque. Et un autre notaire qui arrivera dans le décor. Et j'ai perdu 1 500 000 $. Alors, du jour au lendemain, je me suis retrouvé devant rien. Et là, je leur devais encore 125 000 $ en plus pour payer les frais de ce qu'ils ne m'avaient pas fait. Et là, je me suis dit, ah, même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là que je me suis mis à étudier le système bancaire. Et puis là, je suis allé même dans l'Ouest canadien, parce que dans l'Ouest canadien, il y a des groupes de gens qui se réunissent pour étudier la Constitution canadienne et la Constitution américaine pour découvrir finalement que la Constitution canadienne et américaine n'exige pas ce qu'on appelle les impôts. Les impôts sont un truc du système bancaire. Vous avez écouté le système bancaire, vous l'avez vu, les 9 juges de la Cour suprême du Canada ont déclaré que les impôts fédéraux sont illégaux, même les impôts provinciaux, seulement en cas où le gouvernement serait en perte. Alors, j'ai étudié ça, puis je l'ai placé là, puis quand je suis allé en cours déjà, parce que je refusais de payer mes impôts, je suis allé en cours plusieurs fois. Et puis, finalement, les juges m'ont dit, écoutez, c'est nous, la loi ici, ce n'est pas le livre constitutionnel. On découvrira avec d'autres après que la Constitution canadienne n'est plus applicable au Québec, parce que le Québec est un État sorti du Canada et la Constitution n'est plus applicable, mais il nous force à payer des impôts fédéraux comme si on était là. Alors, ce n'est qu'un truc parmi d'autres par lesquels nous sommes esclaves. Je n'en souffre plus, j'ai tourné la page. Ils m'ont forcé à payer si je voulais vivre. Alors, je paye mes impôts aujourd'hui. Mais quand même, j'étais un homme de conviction, je suis allé jusqu'au bout. Et puis, aujourd'hui, que le Seigneur me donne la force d'aller jusqu'au bout de tout ce qui s'en vient. Et ensuite de ça, J'ai reçu cette formation avec un couple qui sont venus me voir un jour, puis qui m'ont dit, Pierre, parce qu'on ne m'appelle pas docteur, dans mon intime, je suis bien heureux. C'est seulement Michel qui m'appelle docteur. Ils m'ont dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des DVD avec les enseignements que tu donnes? Alors, ça a commencé avec un couple qui ont investi avec moi. Et puis, pour vous montrer que j'étais un homme de conviction, la première caméra, le premier ordinateur qu'on a acheté, c'était en 1991 probablement, quelque chose semblable. Il coûtait 35 000 $. Et puis, j'ai fait un chèque. On n'avait pas fait une cassette encore. Et eux n'en ont payé à moitié, c'était un couple. Et puis, c'était des gens de conviction aussi. Et puis, quelques semaines après qu'on ait commencé à prendre des images, les mettre sur... C'est un ordinateur de la compagnie Avid. Il y en a qui connaissent l'informatique, là. Compagnie Avid, en Californie, vous connaissez ça. Eh bien, ça ne faisait pas. Il était toujours planté, notre ordinateur. Alors, on l'a écrit, puis nous l'ont changé pour un autre qui coûtait 65 000 $. 65 000 $ pour un ordinateur pour faire monter des vidéos. Aujourd'hui, ma fille, qui est meilleure que moi en ordi, m'a dit, « Papa, avec un ordi Apple de 4 000 à 5 000 $, tu ferais plus que ce que tu faisais avec toi. » Puis ça, ce n'était que l'ordi. Il fallait acheter maintenant les caméras, et ainsi de suite, pour faire plein feu. Alors, on a fait plein feu, puis il y a à peu près 3 ans, depuis 3 ans, tous les DVD sont gratuits sur plein feu, parce qu'on a réussi à tout payer avec. Alors, ça montait à peu près à 125 ou 135 000 $. Et puis, ça résume à peu près ce qu'est mon passage, mais dites-vous une chose, c'est que ce que je veux que les gens sachent quand même, moi, je ne me donne aucun crédit d'avoir fait ces choses. Ça a été poussé par le Seigneur, je le sais, je le sens, parce que tout jeune, j'ai été élevé dans une famille humble, et ce n'est personne qui était dans ma famille qui s'aventurait à aller donner des conférences, et ainsi de suite. Ma mère disait, on ne sait pas ce qu'on l'a pris, celui-là. Mais j'étais comme ça, je n'y peux rien, je le remets entièrement au Seigneur, parce qu'il me connaissait longtemps avant que je le connaisse. Et à travers tout ça, il faut que vous sachiez que j'ai eu des moments de grandes difficultés, de grandes attaques, des attaques très fortes, assez pour que l'ennemi me suggère d'une façon très forte, un certain moment de ma vie, qui n'a pas duré longtemps, quelques mois, me suggérait le suicide, parce que c'était trop difficile. Ce divorce que j'ai eu avec mon ex, ce fut une époque au Québec où lorsqu'une femme se présentait devant un tribunal, elle était certaine de gagner. L'homme avait toujours tort. Quelle que soit l'histoire, il ne voulait pas connaître l'histoire, l'homme devait tout perdre sa chemise au nom des enfants qui étaient là. Alors, j'ai trouvé ça très difficile parce que je ne pouvais pas voir mes enfants. La cour me le permettait, mais pas elle. Alors, pour éviter des... C'est pour ça que je suis allé vivre ailleurs. Maintenant, c'est terminé, mais à travers tout ça, les difficultés ont été fortes jusqu'à ce qu'un jour, je sente que l'ennemi peut nous amener dans des difficultés pour nous amener vers le suicide. Je le sais, parce que quand ça m'arrivait, ma tête devenait engourdie. C'est fort, ça, hein? J'ai beaucoup de patients qui me disent ça, puis qui ont dans des difficultés. Alors, j'ai vécu des graves, graves difficultés à tout ça. J'ai eu des grandes périodes de découragement. Je ne suis pas aussi vainqueur que vous le pensez. Je me suis fait aider par beaucoup de personnes entre-temps. Puis même encore aujourd'hui, la vie présente, c'est pas vrai qu'on est vainqueur dans tous les domaines. Le Seigneur permet parfois qu'on se sente petit pour que lui nous montre sa grâce et sa grandeur. Sans lui... C'est sûr que je ne serais pas là, puis je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et je remercie beaucoup Michel Genton de m'avoir invité encore une troisième fois cette année. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Vous apportez du nouveau dans l'eschatologie. Et demain, ben, on verra comment Dieu a défendu ce peuple qu'on appelle Israël, comment il l'a défendu, puis comment il nous avait donné la façon qu'il allait... le défendre et comment il allait laisser ce peuple passer par des difficultés pour lui montrer à ce peuple qu'il est vivant. J'ai eu une belle consolation là, il y a à peu près 3 mois, alors que j'ai entendu M. Netanyahou, Benjamin Netanyahou, au lorsqu'il est, il a été donné un discours aux Nations Unies. Il a dit, vous savez, puis là, il y avait l'Iran qui était là, enfin, M. Mahmoud Abbas et d'autres ici qui l'écoutaient, les rangés comme ça. Et il dira, vous savez, on a beau vouloir nous détruire, nous sommes là depuis 3000 ans et Dieu nous a toujours protégés et les prophéties sur notre peuple se réalisent maintenant. Il dit, personne ne va venir à bout du peuple hébreu parce que nous avons un protecteur. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est touchant d'entendre ça du peuple hébreu. Cela étant dit, bien, merci Michel de m'avoir invité. Merci à vous tous de cette attention que vous donnez à plein feu, puis aux conférences que je donne. Je les donne parce que je les pense conformes à la parole de Dieu. Il veut qu'on sache ces choses. Et j'en suis convaincu à cause des témoignages que je reçois sur plein feu, qui me disent que sans vous, on n'aurait pas été éclairé sur les sujets de la nature du monde dans lequel on vit. Hein? Et puis ensuite, d'autres me disent, nous sommes retournés au Seigneur depuis que vous nous annoncez que le Seigneur est à la porte. Alors, toutes ces choses sont permises, dues et grâce à des gens comme vous ici. Et pour le moment, j'aime bien mettre Michel en évidence, parce que c'est lui qui m'a invité. Ils sont venus m'entendre avec Philippe à un moment donné en France, dans d'autres genres de conférences, des conférences sur la formation eschatologique. Et puis, je les ai connus là. Mais si Michel n'avait pas eu cet esprit ouvert, et Philippe, et vous, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Et ça me fait plaisir de vous dire que j'espère ne pas revenir l'année prochaine avec d'autres choses, parce que nous serons partis. Voilà.
J'avais demandé à mon frère Pierre Gilbert, toi je t'appelle pas docteur là, de nous dire mais qui il est, parce que c'est bien qu'est-ce que tu crois, mais il le dit tellement ce qu'il croit depuis tellement d'années, et c'était bien, je crois, de pouvoir enregistrer lui-même qui dit qui il est. Et c'est vrai que quand on doit raconter qui on est, ça fait tout drôle parce qu'on parle tout le temps de Jésus, de qui est Jésus, mais de qui on est soi-même, t'as vu, ça fait, c'est un petit peu presque impudique, hein. C'est bouleversant. Hein?
C'est quasiment impudique. Hein?
Mais merci Pierre, merci pour ce témoignage et vraiment je suis très content. De dimanche, ça sera notre frère Arthur Alamand qui prêchera, donc venez sur Révélation Bible. Pardon? C'est pas toi qui prêchera dimanche? Il blague. Dimanche, ça sera Arthur Alamand qui prêche. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Merci.